Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Baba Kama, page 26, Daf Kaf Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Demain, la Gemara, Mide Kuleka Amrinan, Palgaka Amrinan. Je ne voulais pas apprendre du Kadachomer que le dégât de la dent ou du pied qui était causé sur la voie publique, qu'il va falloir le rembourser intégralement. Je voulais simplement apprendre du Kadachomer qu'il faudra rembourser la moitié. Et donc peut-être que le verset vient uniquement exclure que c'est uniquement si le dégât a été causé sur une propriété privée qu'il faudra le rembourser entièrement, et non pas s'il a été commis sur la voie publique. Dans ce cas-là, ce n'est pas la totalité du dégât qui est exigible, mais uniquement la moitié. Répond la Gemara à Marcra, c'est écrit dans le verset, à propos du remboursement de l'endommagement de la corne, « Ve chatsu et kaspo » et on va diviser la valeur en deux. Pourquoi le verset précisait « kaspo » la valeur de ce dégât? De là on apprend « kaspo shel ze ve lo kaspo shel acher » C'est uniquement le dégât de la catégorie de la corne qui pourra être divisé en deux, et non pas celui de la catégorie d'un autre dégât. Demande la Gemara. Et pourquoi quand l'animal a fait un dégât qui rentre dans la catégorie de la dent ou du pied, si le dégât a été fait dans une propriété privée, il faudra le rembourser intégralement? On aurait dû dire que c'est uniquement la moitié du dégât qui est exigible, ni kalvachomer, ni keren, et cela on pourra l'apprendre à partir d'un kalvachomer du dégât de la catégorie de la corne. Ou ma keren chez birshut harabim chayevet, birshut anizak ena meshalemet ela chatzi nezek. Si déjà à propos du remboursement d'un dégât de la catégorie de la corne, où la Torah a été plus stricte, elle a exigé le remboursement, même si le dégât a été fait sur la voie publique, tout de même quand ce dégât a été fait dans une propriété privée, c'est uniquement la moitié du dégât qu'il faudra rembourser. Alors, Shen Varegel Sibeshut Arabim Ptura, Enodin Sibeshut Anizak, Meshalem Khatinezek. À propos du remboursement du dégât de la dent ou de la patte, comme quoi la Torah a été moins stricte, et elle a dit que si ce dégât a été fait dans la voie publique, le propriétaire est entièrement exempté du remboursement, a fortiori que ce dégât qui a été fait dans une propriété privée, qu'il suffira de rembourser la moitié. Répond la Gemara, en effet, le Kadachomer est juste. Tout de même, à Markra, c'est écrit explicitement dans le verset, Yeshalem Tashlumin Me'alia. Je dicte entièrement le verset qui nous intéresse, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem, du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne, qu'il payera le dégât. Étant donné que le mot Yeshalem est en trop, si on parle du meilleur de son champ et de sa vigne, forcément on parle du remboursement, ou bien le verset aurait pu l'écrire autrement. Cette façon-là vient nous apprendre que le remboursement doit être un bon remboursement, donc un remboursement complet, et non pas un demi-remboursement. Demande la Gemara, Velo tehe keren birshut tarabim chayav. Et on aurait dû dire qu'à propos de l'endommagement de la catégorie de la corne, si le dégât a été fait sur la voie publique, le remboursement est exempté. Et cela, on peut l'apprendre à partir d'un kalvachomer, ni kalvachomer. Uma shen veregel shebirshut anizak nezek shalem, birshut arabim ptura. Si déjà, à propos du remboursement de la catégorie de la dent ou de la patte, comme quoi la Torah était plus stricte à propos de ce remboursement, elle a exigé de rembourser l'intégralité du dégât, si celui-là a été fait dans une propriété privée, tout de même, elle l'a entièrement exempté s'il a été fait sur la voie publique. Keren shebirshut anizak chatzi nezek. Alors, à propos du remboursement de la catégorie de la corne, comme quoi la Torah était moins stricte, elle a dit que si le dégât a été fait dans une propriété privée, il suffira de rembourser la moitié du dégât, a fortiori que sur la voie publique, on est entièrement exempté du remboursement. Amar Rav Yochanan, répond à cela Rav Yochanan, Amar Gra Yechetsun. Après que le verset a écrit, Vechatsu et Kaspo, et on va diviser sa valeur, le verset se répète et dit, Yechetsun. Et on va le diviser. Pourquoi cette répétition? Pour nous apprendre que en chatzi nezek chalouk lo b'shut harabim ve lo b'shut hayachid. On ne fera pas de différence à propos du remboursement de la moitié du dégât. Et donc, on dira que de toute façon, il faudra rembourser la moitié du dégât à propos du remboursement d'un dégât de la catégorie du keren. Soit si le dégât a été fait sur une propriété privée, soit sur une voie publique. Demande la Gemara, ve yadam chayav bekofer mikal vachomer. Et l'homme qui a tué dans certaines conditions, dans le cas où le meurtre était prémédité, cependant le criminel n'a pas été prévenu par des témoins, comme quoi dans ce cas-là le tribunal ne pourra pas châtier le criminel, pourquoi ne pas apprendre à partir du kalvachomer qu'on pourra au moins exiger de lui le paiement d'une rançon? Quel est ce kalvachomer? Uma shor she'eno chayav b'arba dvarim chayav b'kofer. Si déjà à propos d'un taureau qui a causé un endommagement, qui a blessé une personne, son maître n'a pas remboursé les quatre choses, n'a que à rembourser le dégât, et non pas la souffrance, le traitement, le chômage et la honte. Tout de même, quand ce taureau a tué une personne, Chayav be kofer, son maître va devoir payer une rançon. Alors Adam she Chayav barba dvarim et nodin she ye Chayav be kofer, l'homme qui lui va devoir rembourser les quatre choses quand il a blessé une personne, n'est-ce pas fortiori qu'il va devoir payer la rançon quand il a tué? Répond la Gemara, c'est écrit dans le verset à propos du paiement de la rançon, à marquera que chol asher yushat alav, selon ce qu'on aura imposé sur lui. Pourquoi le verset a précisé le mot alav, sur lui? Pour nous apprendre, alav velo ala adam. C'est uniquement sur lui que sera imposée la rançon, et non pas sur l'homme qui a tué. Demande la Gemara, alors on n'a qu'à inverser le kalvachomer, et donc veyeheshor chayav barba dvarim et kalvachomer. À propos du taureau qui a blessé un homme, on aurait dû apprendre par le kalvachomer que son maître va devoir rembourser les quatre choses, la souffrance, le traitement, le chômage et la honte. Quel est ce kalvachomer? Uma adam sheno chayav bekofer chayav barba dvarim. Si déjà à propos de l'endommagement de la part d'un homme, comme quoi la Torah était moins stricte, et elle a dit que si l'homme a tué, il n'a pas la rançon à payer. Tout de même, à propos d'une blessure, la Torah a exigé le paiement de quatre choses. Alors, shor shechayav bakofer et nodin sheyechayav barba dvarim. À propos du taureau où la Torah est plus stricte, elle a dit que quand il a tué, il va falloir payer une rançon. A fortiori que quand il a blessé, il va falloir rembourser les quatre choses. Répond la Gemara Markra à ce qui est dans le verset Ishba mito. À propos du remboursement des quatre choses, la Torah conclut et dit, telle sera l'indemnisation d'un homme qui aura blessé un autre homme. De là on déduit, veloshor ba'amito, que si c'est un homme qui a causé la blessure, et non pas si c'est un taureau qui l'a causé. Iba yalou, on s'est posé la question suivante. Regel ch'darsal gabetinok bechatsara nizak, ma'ush t'shalem kofer. Une bête qui en marchant a écrasé et tué un bébé dans la propriété de l'être endommagé, est-ce qu'il va falloir payer une rançon ou pas? Mi amrinan, mi dede avakeren. D'un côté on pourra dire que oui, en effet, il faudra payer la rançon. De même qu'à propos de la bête qui a tué avec ses cornes, keren kevan de avad treut lat zimne ou reu ou meshalem kofer. De même qu'à propos de la bête qui a tué avec ses cornes, une fois qu'elle l'a faite deux ou trois fois, cela rentre dans ses habitudes. Et c'est pour cela qu'il faudra payer la rançon. Hachana miloshna. Pareil à propos de la bête qui a marché, cela rentre dans ses habitudes de marcher. Et donc c'est la même chose. Et il faudra payer la rançon. Odilma, ou bien on va faire cette différence. Keren kevanato lazik. Hay en kavanato lazik. À propos de la bête qui a encorné, elle avait l'intention de faire du mal. Elle a fait son geste pour faire du mal. Par contre, la bête qui a marché, elle n'avait pas l'intention de faire du mal. Tashma, voyons voir cette preuve. Ichnis shoro le chatser ba'alabait. Shelo birshut, celui qui a rentré son taureau dans une propriété privée, et ça il l'a fait sans permission. Venakro le ba'alabait ou met. Et ce taureau a encorné le propriétaire de la maison et il l'a tué. Ashor biskila, ou bealav ben tam ben muad, meshalem kofer shalem. Divrei Rabbi Tarfon. D'après Rabbi Tarfon, il faudra tuer, lapider le taureau, et son maître devra payer la rançon, non seulement la moitié de la rançon, notamment la totalité de la rançon, soit si le taureau est un taureau prévenu, soit s'il est inoffensif. Demande la Gemara kofer shalem betam le Rabbi Tarfon minale. D'où est-ce que Rabbi Tarfon apprend qu'il faudra payer la rançon entière, même si le taureau est un taureau inoffensif? N'est-ce pas que la raison est Lav Mishum, de savoir le que Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Tarfon partage l'avis de Rabbi Yossi Aglili. De Amar, Tam Meshalem Chatzi Kofer, Birshut Arabim. Comme quoi nous dit Rabbi Yossi Aglili, que si le taureau inoffensif a tué avec ses cornes sur la voie publique, son maître va devoir payer la moitié de la rançon. Et à partir de ce din de Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Tarfon apprenait d'un kalvachomer que si le taureau a encorné dans une propriété privée, même s'il est inoffensif, il faudra payer la rançon entière. Et quel est ce kalvachomer? Umaite la mi kalvachomer mi regel. Et il apprend à partir d'un kalvachomer de la patte. Quel est ce kalvachomer? Le même qu'il a mentionné dans la Mishnah. Si déjà à propos de la dent ou du pied, l'animal qui a tué par ses dents ou par ses pattes sur la voie publique, son maître est entièrement exempté de payer la rançon. Tout de même, si cette bête a tué avec ses dents ou avec ses pattes dans une propriété privée, son maître va devoir payer la rançon entière. Alors à propos de la bête inoffensive qui a tué avec ses cornes, comme quoi si elle l'a fait sur une voie publique, son maître va devoir payer la moitié de la rançon, a fortiori que si elle l'a fait dans une propriété privée, son maître va devoir payer la rançon entière. Donc en tous les cas on voit, Alma ikakofer beregel, à propos de la bête qui a tué avec ses pattes, si cela a été fait dans une propriété privée, il va falloir payer la rançon. Réfute la Gemara. Amar Rav Shimi min Arda. A dit sur cela Rav Shimi de Narda. Tana, minozikin de Regen Maïtela. En effet, à propos de la bête qui a tué avec ses pattes, il n'y a pas du tout le paiement de la rançon. Et Rabbi Tarfon a fait son quoi de Vachomer à propos du remboursement du dégât de la catégorie de la patte. Si déjà ce remboursement qui n'est pas du tout exigible, si le dégât de la patte a été fait sur une voie publique, il est tout de même entièrement exigible. S'il a été fait dans une propriété privée, alors le paiement de la rançon pour la bête inoffensive qui a encore né est tué, où il faudra payer la moitié de la rançon. Si elle a encore né sur une voie publique, a fortiori qu'il faudra la payer entièrement. Si elle a encore né dans une propriété privée, demande la Gemara, ce cas de Homer est discutable, le Lifror, on pourra le réputer. Comment veux-tu apprendre le paiement de la rançon du remboursement d'un dégât? On voit que la Torah fait la différence entre la rançon et un remboursement. Ou cela, à propos du feu. Le feu qui a endommagé, celui qui l'a allumé va devoir rembourser les dégâts. Par contre, le feu qui a tué, celui qui l'a allumé n'a pas à payer la rançon. Répond la Gemara Mitamoun. On fait le Kalvachomer à partir d'un bien enfoui. Comme quoi, quand le feu l'a brûlé, son maître est exempté du remboursement. J'explique le Kalvachomer. Si déjà à propos d'un dégât de la catégorie de la pâte, comme quoi si ce dégât a été fait sur une voie publique, son maître est entièrement exempté du remboursement. Tout de même, quand ce dégât a été fait dans une propriété privée, il faudra le rembourser entièrement, même si l'objet endommagé était enfoui. Alors à propos du paiement de la rançon pour un taureau qui a tué avec ses cornes, comme quoi sur la voie publique, il faudra payer la moitié de la rançon, a fortiori que dans une propriété privée, il faudra la payer entièrement. Maintenant, on ne pourra plus dire « Esh yochiach ». Le fait prouve l'inverse, qu'à propos du dégât de la catégorie du feu, on paye le remboursement et non pas la rançon. Étant donné que dans le cas qu'on vient de présenter, si le dégât n'a pas été fait avec une pâte, mais plutôt avec du feu, étant donné que la chose endommagée était enfouie, celui qui l'a allumé est entièrement exempté de mon akmara. Malotamun, sheken yeshnobebor. Il est vrai que dans ce cas-là, on ne pourra pas briser le kalvachomer par la réfutation du feu, mais on pourra tout de même le briser par la réfutation du trou. Si le chevreau enfoui, fourré dans un sac, est tombé dans un trou, celui qui a creusé le trou va devoir rembourser le chevreau. Par contre, à propos d'un trou qui a tué, il n'y a pas de rançon à payer. Répond la Gemara, Mikelim. On fait le Kalvachomer, non pas à partir d'un dégât de la catégorie de la pâte sur un chevreau, mais plutôt d'un dégât de la catégorie de la pâte sur un objet. Si déjà quand la pâte a brisé un objet sur la voie publique, où son maître est entièrement exempté du remboursement, tout de même, il va devoir le rembourser entièrement si cette pâte l'a brisé dans une propriété privée. Alors, à propos du paiement de la rançon, quand le taureau a encore né, ou on a vu que s'il a encore né sur une voie publique, il va falloir payer la moitié de la rançon, a fortiori que s'il a encore né dans une propriété privée, il va falloir la payer entièrement. Et là, on ne pourra plus dire « Sheken yesh no bebor ». Peut-être que cela est comme à propos du trou, comme quoi il va falloir rembourser les dégâts du trou, et tout de même, on n'a pas à payer la rançon pour une personne qui est morte par un trou. Étant donné que de toute façon, quand c'est un objet qui est tombé dans un trou et s'est cassé, celui qui l'a creusé est exempté du remboursement. Redemande la Gemara. Si on fait le Kalvachomer à partir d'un objet, on reprend la première réfutation. Malokelim sheken yeshnam be'esh. L'objet qui a été brûlé par le feu, il va falloir le rembourser. Et tout de même, le feu qui a tué, celui qui l'a allumé n'a pas payé la rançon. Répond la Gemara. Mikelim temunim. On fait le Kalvachomer à partir des objets enfouis. Je dis rapidement le Kalvachomer. Si déjà à propos d'un dégât sur un objet enfoui par la catégorie de la pâte, comme quoi on a dit que si ce dégât était fait sur une voie publique, son maître est exempté du remboursement. Tout de même, dans une propriété privée, il va falloir le rembourser entièrement. Alors à propos du paiement de la rançon pour un taureau qui est encore né, comme quoi on a vu que sur une voie publique, il faut payer la moitié, a fortiori que dans une propriété privée, il va falloir payer la rançon entièrement. Et là on ne pourra plus dire « Sheken yeshno be'esh » ou bien « Sheken yeshno be'bor ». Peut-être que c'est comme le feu ou comme le trou, où il faudra rembourser le dégât et non pas la rançon. Étant donné que dans le cas de l'objet enfoui, s'il a été brûlé par le feu, le remboursement n'est pas nécessaire, étant donné qu'il est enfoui, et s'il est tombé dans le trou et il s'est cassé, le remboursement n'est pas nécessaire, étant donné que c'est un objet. De mon agmara, il y a une autre réfutation, malokelim tmunim, shieshnan de Adam, comme on vient de voir précédemment, l'homme qui a tué ne paye pas de rançon. Par contre, l'homme qui a endommagé, même s'il a endommagé un objet enfoui, il va falloir le rembourser. Donc on pourra réfuter le Kalvachomer en disant qu'il n'est pas possible d'apprendre le paiement de la rançon à partir du remboursement d'un dégât, comme on voit à propos de l'homme. L'homme qui a endommagé va devoir rembourser son dégât, et s'il a tué, il n'a pas de rançon à payer. Donc il faudra retourner au Kalvachomer initial, que le Kalvachomer est à partir de la pâte qui a tué. Et la lave, donc, n'est-ce pas, Shmamina, de l'envoi, Mikofer de Regel Maïtela. Si déjà la pâte de la bête qui a tué sur une voie publique, où son maître est entièrement exempté de payer la rançon, il va devoir tout de même la payer entièrement. Si cette pâte a tué dans une propriété privée, alors à propos du Keren, quand la bête inoffensive a encorné et tué, ou si elle l'a fait sur une voie publique, il va falloir payer la moitié de la rançon, a fortiori que si elle l'a fait dans une propriété privée, qu'il va falloir payer la rançon entièrement. Donc, Alma, on voit d'ici, Ika Kofer Beregel Shmamina. On pourra déduire qu'il va falloir payer la rançon quand la bête a écrasé et tué avec ses pattes dans une propriété privée. Amarle Ravacha Midifte le Ravina, a dit Ravacha de la ville de Difte à Ravina, Hachinami Mistabra de Ike Kofer Beregel. En effet, il est logique de dire qu'il va falloir payer la rançon à propos de la bête qui a tué avec ses pattes. De Isalka Datar le Kofer Beregel. Car si tu vas dire qu'il n'y a pas de rançon à payer à propos d'une bête qui a tué avec ses pattes, et en effet, Vetanam Minezakin de Regel Maïtela, le Kal Vachomer de Rabbi Tarfon, était à partir de la patte de la bête, non pas qui a tué, mais qui a endommagé. Je répète rapidement le Kal Vachomer pour comprendre plus facilement la suite. Si déjà la patte qui a endommagé sur une voie publique, on est entièrement exempté du remboursement, tout de même si elle a endommagé dans une propriété privée, il va falloir rembourser l'intégralité du dégât. Alors à propos de la bête inoffensive qui a encore été tuée, comme quoi si elle l'a fait dans une voie publique, qu'il va falloir payer la moitié de la rançon, à fortiori que si elle l'a fait dans une propriété privée, qu'il va falloir payer la rançon entière. Sur cela, l'ifror, on pourra réfuter le cas de la Homer, Maronezikin de Regel, Chekenyeshnam de Regel, de la pâte même avec laquelle on a fait le cas de la Homer, on pourra le réfuter, comme quoi à propos de la pâte, si cette pâte a fait un dégât, il va falloir le rembourser. Si cette pâte a tué, son maître est exempté de payer la rançon. Donc on voit qu'il y a une différence entre le remboursement et la rançon. Alors comment peut-on apprendre la rançon de la corne du remboursement de la pâte? Donc n'est-ce pas? Et la lave, Shmamina, Mikofer de Regel Maïtela. Le Kal Vachomer est à partir du paiement de la rançon quand la bête a tué avec ses pattes, étant donné que même dans ce cas-là, il va falloir payer la rançon. Alma, Ika Kofer de Regel Shmamina. Donc en conclusion, la bête qui a tué avec ses pattes dans une propriété privée, son maître va devoir payer la rançon. On commence, Bezrat Hashem, la dernière Mishnah du chapitre. Adam Mouad Leolam, Ben Shogek Ben Mezid. L'homme qui a endommagé est toujours considéré comme prévenu. Dans tous les cas, il va devoir rembourser l'intégralité du dégât qu'il a causé. Ben Shogek Ben Mezid. Soit s'il a endommagé sans le faire exprès, soit s'il l'a fait intentionnellement. Ben Er Ben Yashen. Soit s'il était réveillé, soit s'il dormait. Simat en chavero veshiber et akelim meshalem nezek shalem. S'il a crevé l'œil de son camarade et il a brisé des ustensiles, il payera l'intégralité des dégâts, soit de l'œil, soit des objets. Nous dit la Gemara, Ktani simat en chavero dumia de shiber et akelim. La Mishnah a parlé du même remboursement, soit à propos de l'œil crevé, soit à propos des objets cassés, pour nous dire mahatam nezek in arba advarim lo. De même qu'à propos de l'objet, il y a uniquement le dégât remboursé et non pas les quatre choses. À propos d'un objet, il est impossible de parler d'un remboursement des quatre choses, de la souffrance, du traitement, du chômage et de la honte. Pareil à propos du remboursement de l'œil crevé, il y a uniquement le dégât remboursé. Par contre, on ne pourra pas exiger comme remboursement les quatre choses. Étant donné que le remboursement des quatre choses sont exigibles uniquement quand l'homme a endommagé intentionnellement. Mais s'il le fait par inadvertance, on rembourse uniquement le dégât. On tourne la page, on est capable.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Fait par inadvertance, on rembourse uniquement le dégât. On tourne la page, on est kavala moudbet. Demande la Gemara, mina animile. D'où est-ce qu'on sait que l'homme qui a endommagé va devoir rembourser le dégât, même s'il ne l'a pas fait exprès? Amar Chizkia, v'chen tane de Bechizkia. A répondu à cela Chizkia, et en plus, dans la yeshiva de Chizkia, cela a été dit au nom d'une braïta. Amar Kra, c'est écrit dans le verset, petza tachat petza. Après que le verset a dit que celui qui a blessé une personne, il va falloir l'indemniser, le verset a rajouté petza tachat petza. Plaie pour plaie. Cela est en trop. Le chayvo à la shogeg kemezid, vana onef keratson. Cela vient pour nous apprendre qu'il va falloir l'indemniser s'il l'a blessé par inadvertance, comme s'il l'a blessé intentionnellement, ou bien s'il l'a blessé sans le vouloir, comme s'il l'a blessé en ayant l'intention. de mon Agmara, ce verset n'est pas entre Haï Mibaele, on a besoin, l'iten tsahar bimkom nezek, pour nous apprendre que quand il va falloir rembourser la souffrance, il va falloir la rembourser en plus du remboursement de l'endommagement. J'aurais pu penser que le remboursement de la souffrance vient uniquement quand il n'y a pas d'autre remboursement, quand il n'y a pas d'endommagement. Comme par exemple nous dit Rashi, celui qui a pris une barre de fer chauffée à blanc et il l'a posée sur l'ongle de son camarade. La victime n'a pas dévalué de sa valeur, donc il n'y a pas d'endommagement. Par contre, la souffrance est atroce. Donc j'aurais pu penser que c'est uniquement dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a pas d'autre remboursement, qu'il va falloir rembourser la souffrance. Nous dit le verset de Petsa Tachat Petsa, que même dans le cas où il faudra rembourser l'endommagement, il faudra tout de même rembourser la souffrance. Répond la Gemara, en effet, du même verset, on pourra apprendre les deux commentaires. Comment cela ? Imken nichtov kra petsa be petsa, mai tachat petsa, shma minatarti. Le verset, s'il voulait nous apprendre qu'une chose, il aurait dû écrire petsa be petsa, plaie pour plaie. Pourquoi il a écrit petsa tachat petsa, une plaie à la place d'une autre plaie ? Le mot tachat vient pour un deuxième commentaire. Donc, de ce verset, on apprend les deux commentaires. Amar Rabba nous dit Rabba, haïta even munachat lo bereko. Velo ikirba, celui qui avait une pierre cachée sous sa chemise, mais il ne l'a pas remarqué, il n'est pas au courant, ve'amad ve'nafla, et quand il s'est levé, cette pierre lui a échappé, et elle a causé des dégâts, ça dépend. Le inyan zakim chayav, s'il y a eu un endommagement, il va falloir le rembourser. Le inyan arba dvarim patour, à propos du remboursement des quatre choses, la souffrance, le traitement, le chômage et la honte, de ce remboursement il est exempté. Le inyan shabbat, melechet marchevet asra Torah. Si par exemple, cette pierre en tombant a allumé une lumière, cela n'est pas considéré qu'il a transgressé le shabbat, étant donné que la Torah interdit certains travaux, que si celui qui les fait intentionnellement. Le inyan galut, patour. De même si cette pierre a tué quelqu'un, il ne sera pas exilé dans une autre ville, comme celui qui a tué sans le faire exprès. Nous dit Rashi, étant donné qu'il ne pouvait pas faire attention, il n'a jamais été au courant d'avoir une pierre sur sa poitrine. Le inyan eved, plukta de Rab Shimon ben Gamliel verabanan. À propos de l'esclave, comme quoi c'est écrit dans la Torah que celui qui crève l'œil de son esclave, ou bien lui fait tomber sa dent, il va falloir affranchir cet esclave. Donc si cette pierre en tombant a crevé l'œil de son esclave, ou bien lui a cassé sa dent, ceci est une divergence entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabanan, est-ce que l'esclave est affranchi ou pas? De Tanya, comme on l'a vu dans la Baïta, Hare Shaya Rabo Rofe, si le maître de l'esclave était un médecin, Ve'amarlo Kechol Eni, Ve'sima'a, et l'esclave a demandé à son maître de lui mettre de la pommade dans l'œil pour le guérir, et par le traitement, le maître l'a rendu aveugle, ou bien Chator Lishini, Ve'ipila'a, l'esclave lui a demandé, répare-moi la dent, et le maître lui a fait tomber. Même que le maître n'a pas cherché à faire du mal à son esclave, tout de même, l'esclave rigole de son maître et s'en va retrouver la liberté. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel, lui nous dit, étant donné que le verset écrit Veshichata et il va l'abîmer, il va la détruire, de là on apprend Akit Kavem Shachata. Quand est-ce que l'esclave est affranchi si son maître lui a crevé l'œil ou lui a fait tomber sa dent, que s'il l'a fait exprès, il l'a fait pour abîmer. Sinon, l'esclave ne retrouve pas sa liberté. Donc pareil, dans le cas où la pierre lui est tombée, et l'œil ou la dent ont été abîmés malgré la volonté du maître, d'après la première opinion, de toute façon, l'esclave est affranchi, et d'après celle de Rabban Shimon ben Gamliel, étant donné que le maître ne l'a pas fait intentionnellement, l'esclave reste esclave. Rabba maintenant change de cas. Hikirba v'shachecha v'amad v'nafla. Si au début il savait qu'il avait une pierre sous sa chemise, ensuite il l'a oubliée, et quand il s'est levé, elle est tombée. Le inyan nezakin chayav. Si cette pierre a causé un endommagement, il va devoir le rembourser. Le inyan arba dvarim patour. À propos du remboursement des quatre choses, étant donné qu'en fin de compte, il ne l'a pas fait exprès, donc il n'a pas remboursé ces quatre choses. Le inyan galut chayav. Si cette pierre a tué quelqu'un, lui va devoir s'exiler. De Amar Krabish Gaga, quand est-ce qu'on va châtier par l'exil celui qui a tué, s'il a tué sans en avoir l'intention? De là on apprend Michlal de Havel Yedia, le mot Shogeg en hébreu, par inadvertance, est employé uniquement dans le cas où dans une date antérieure à l'acte, la personne en avait la connaissance, et ensuite il a fait l'acte suite à un oubli. Mais s'il n'avait jamais eu la connaissance du problème, cela n'est pas appelé Shogeg. Donc, étant donné qu'à propos de l'exil, le verset a employé le mot « bishgaga », qu'il faut d'abord avoir connaissance, et lui-même avait la yedia. Il avait la connaissance qu'en effet, il avait une pierre sous sa chemise et il devait être prudent. Donc, il est concerné par le châtiment de l'exil. Le Inyan Shabbat Patour, à propos de la transgression du Shabbat, il est exempté. Il n'est pas considéré comme avoir transgressé le Shabbat. Étant donné que pour transgresser le Shabbat, il faut faire la chose en ayant l'intention de la faire. Celui qui veut allumer une lumière, et en effet il allume la lumière, en oubliant qu'aujourd'hui on est Shabbat, ou bien en oubliant que le jour du Shabbat il est interdit d'allumer la lumière. Celui-là est considéré comme avoir transgressé le Shabbat par inadvertance. Mais celui qui a fait un geste sans penser aux conséquences, il n'a pas transgressé le Shabbat. Le Inyan Eved, Plukta de Rabban Shimon ben Gamliel ve Rabbanan, si cette pierre a crevé l'œil de l'esclave, ou bien lui a cassé la dent, cela suit la même divergence qu'on a vue entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbanan. Maintenant, Rabba rapporte une troisième possibilité. Nitkaven Nizrok Shtaim Vezarak Arba, il a pris cette pierre pour la lancer, mais il avait l'intention de la lancer à une distance de 2 mètres. Et elle a atterri à une distance de 4 mètres. Et c'est là-bas qu'elle a fait des dégâts. Le Inyan Zakin Chayav, à propos de n'importe quel endommagement, il va devoir le rembourser. Le Inyan Arba Dvarim Patour, à propos du remboursement des 4 choses, il est exempté. Étant donné qu'à l'endroit où cela a atterri, il n'avait pas l'intention de blesser son camarade. Le Inyan Shabbat Melechet Marchevet Beinan, à propos de la transgression du Shabbat, il ne l'a pas transgressé, étant donné que ce qu'il avait l'intention de faire n'a pas été accompli, et ce n'est pas ça que la Torah a interdit. Le Inyan Galut, à propos de l'exil, si cette pierre a tué à l'endroit où elle a atterri, il est exempté de l'exil. Étant donné que le verset a dit « Asher lo tzada », le verset a rajouté ces mots-là à propos de celui qui a tué par inadvertance « Va Asher lo tzada » et s'il n'a pas eu « Gep apan »« Amma rachmana » telles sont les paroles divines. De là, on apprend « Brat le netkaven nizrok shtaim vizarak arba » quand est-ce qu'il va s'exiler celui qui a fait son geste, qui a tué, sans avoir du tout l'intention de faire un geste dangereux, il n'y avait aucun « Gep apan ». Par contre, celui-là, qui avait l'intention en effet de lancer à une distance de 2 mètres, quand il aura lancé sans le faire exprès à une distance de 4 mètres, il sera exempté de l'exil. À propos de ce passage que je viens d'expliquer, à savoir que j'ai suivi la deuxième explication de Rashi. La première explication du Rashi l'explique inversement. Je vais la dire rapidement. Le Inyan Galut, à propos de l'exil, en effet il va subir l'exil. Et la Gemara ramène une preuve que même qu'il a eu l'intention de lancer la pierre, il n'est pas considéré comme celui qui a tué intentionnellement, et donc il ne sera pas lui-même condamné à mort. Par conséquent, il va subir l'exil. Étant donné que le verset a écrit « Va Asher Lotada Amarachmana » et il n'y a pas eu de guet-apens, et on va rajouter la suite, comme quoi par contre, s'il y a eu un guet-apens et le meurtre était prémédité, le criminel va être condamné à mort. Sur cela, nous dit la Gemara, « Prat le nitkaven nizok shtaim vezarak arba » quand est-ce qu'il sera condamné à mort? Uniquement si en effet par son geste, il a eu l'intention de tuer. Mais s'il a eu l'intention de lancer la pierre à une distance de 2 mètres et il a lancé à une distance de 4 mètres, il sera exempté de la peine capitale, et donc il va s'exiler. Le Inyan Eved, Plukta de Rabban Shimon ben Gamliel ve Rabbanan, si au bout des 4 mètres, quand la pierre a atterri, elle a crevé l'œil de son esclave, ou bien elle lui a cassé la dent, cela suit la même divergence qu'on a vue entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbanan. Quatrième cas, Nitkaven Lizrok Arba Vezarak Shmone, s'il avait l'intention de lancer la pierre à une distance de 4 amot, de 4 coudées, et il l'a lancé à une distance de 8 coudées, cela reste pareil que dans le cas précédent, à l'exception du Shabbat. En fait, je dois me corriger, dans le cas précédent, où il s'agissait de celui qui a voulu la lancer à une distance de 2 mètres, et il a lancé à une distance de 4 mètres, dans la Gemara, il ne s'agit pas de mètres, il s'agit de coudées. Il avait l'intention de la lancer à une distance de 2 coudées, de Hamot, et il l'a lancé à une distance de 4. Je précise cela, étant donné que ça nous fait une différence à propos du Shabbat. Donc, je reprends notre cas, il avait l'intention de la lancer à une distance de 4 coudées, et il l'a lancé à une distance de 8 coudées. Le Inyan Zakin Chayav, le Inyan Arba Dvarim Patour, à propos de n'importe quel endommagement, il va devoir le rembourser. À propos du remboursement des 4 choses, il est exempté. Le Inyan Shabbat, à propos de la transgression du Shabbat, Domer kol makom shetirtetanuach in, ilo lo. S'il n'avait pas d'endroit précis, où est-ce que la pierre doit atterrir? Il a dit, la pierre peut atterrir n'importe où. Dans ce cas-là, il a transgressé le Shabbat. Étant donné qu'il avait l'intention que la pierre traverse la distance de 4 coudées, et en effet, puisqu'elle a traversé 8 coudées, dans les 8 coudées, il y en a 4 qui sont inclus, et donc son intention s'est accomplie, et puisque peu lui importe où est-ce que la pierre atterrit, donc son intention s'est entièrement accomplie, et il a transgressé le Shabbat. Par contre, S'il avait l'intention que la pierre atterrisse à un endroit précis, et cette intention n'a pas été accomplie, puisque la pierre a atterri plus loin, donc il n'a pas transgressé le Shabbat. Demande Rashi pourquoi dans le cas précédent, à propos des deux coudées et quatre coudées, la Gemara n'a pas dit la même différence. Répond Rashi, étant donné que dans le cas précédent, où il avait uniquement l'intention que la pierre traverse la distance de deux coudées, comme quoi, même si sa pensée avait été accomplie, et en effet la pierre aurait atterri à la distance voulue, au bout des deux coudées, cet homme n'a pas transgressé le Shabbat, étant donné que la distance minimale pour transgresser le Shabbat est la distance de quatre coudées. Donc, dans le premier cas, de toute façon, il n'a pas transgressé le Shabbat, étant donné qu'il n'en avait pas l'intention. Cependant, dans le deuxième cas, où il avait l'intention de la lancer à une distance de quatre coudées, donc il avait l'intention de transgresser le Shabbat, si en plus, peu lui importe où la pierre atterrit, donc sa pensée s'est accomplie, et en effet, il a transgressé le Shabbat. Le Inyan Eved, Plouktat de Rabban Simon ben Gamliel de Rabbanan, à propos de l'esclave qui par cette pierre a perdu son œil ou sa dent, cela rentre dans la même divergence qu'on a vue entre Rabbanan et Rabban Simon ben Gamliel. Vama Rabba, et encore nous dit Rabba, Zarak Kli Miroshagag, ou Baacher Veshebro Bemakel, celui qui a lancé un ustensile fragile du toit d'une maison, et dans la chute de l'objet, avant qu'il éclate sur le sol, une autre personne l'a brisé avec un bâton, Patour, celui qui l'a brisé avec le bâton, est exempté du remboursement. Aïtama, pour quelle raison? Manat vira tavar. Il a cassé un verre qui est de toute façon cassé. Vama Rabba, encore on dit Rabba. Zarak kli miroshagag, veutartav kari muksatot. Celui qui a jeté un objet du toit d'une maison, cependant à l'endroit où l'objet devait atterrir, il y avait des coussins ou des couvertures. Bacher vesilkan. Avant que l'objet achève sa chute, une autre personne est venue et elle a enlevé les coussins et les couvertures. O kadam vesilkan, ou bien lui-même. Il est descendu du toit plus rapidement que l'objet et il a enlevé les coussins ou les couvertures, pas tour. Il est exempté du remboursement. Cela s'entend soit celui qui les a lancés, soit celui qui a enlevé les couvertures. Maïtama, pour quelle raison? Be'idna de Shadier, psukem mafseke gire. Du moment où il a jeté l'objet, étant donné que l'objet allait atterrir sur des coussins, sa flèche, cela s'entend, son geste, est terminé. Et la suite, quand il a lui-même ou une autre personne enlevé les couvertures, ce n'est pas lui qui a brisé directement l'objet. Celui qui a enlevé les couvertures, il est simplement gramma. Il est la cause du dégât. Mais ce n'est pas lui qui a fait le dégât. Et donc il est exempté du remboursement. Vama Rabba, et encore on dit Rabba, Zarak tinok meroshagag, ou ba'acher v'kiblo besayaf, celui qui a jeté un enfant du toit d'une maison, et une personne qui se trouvait en bas a reçu l'enfant sur son épée, donc il a tué un enfant qui allait de toute façon mourir, plukta de Rabbi Ben Beter avec Rabbanan. Cela dépend de la divergence qu'il y a entre Avida ben Neterah et Rabbanan. De Tanya, comme on a vu dans la Braïta, Iku Asara bne Adam ba Asara Maklot, 10 personnes qui ont frappé leur victime avec 10 bâtons, et la victime en est décédée, Ben Vatachat ben Bezaharze, Kulan Pturin. Soit s'ils l'ont frappé tous les 10 ensemble, soit s'ils l'ont frappé un après l'autre, eux-mêmes sont exemptés de la peine capitale, étant donné qu'il n'y a pas une personne qui l'a tué entièrement. Avida ben Neterah Omer, d'après Rabbi Yehuda ben Betera.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.